Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en compagnie de Tony Jaffery, de Stéphane Casalong, de Jean-Pierre Fleury, le Jean-Pierre Fleury que tout le monde nous envie, et de Jean-Pierre Acquaviv qui décore en définitive qu'un petit passe-plat à côté du grand Jean-Pierre Fleury. On va vous parler aujourd'hui d'animaux, on peut dire mythiques. Certains sont parés d'auras glorieuses ou funestes, certains sont petits, certains sont très grands. Il s'agit des rapaces, plein feu sur eux aujourd'hui.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Bonjour vous.
Bonjour, ça va bien ?
Ah ben en pleine forme. Puis bien. Bon, les rapaces en plus, moi j'ai tout le temps une fascination pour ces... Pour ces oiseaux.
Oui, ils ont fasciné, on va voir qu'ils ont. Ils occupent les blasons,
les
timbres-postes, et même les prénoms et les noms de famille des gens.
Oui, puis ils occupent même, Jean-Pierre, tout ce qui est un peu funeste. Par exemple, dans la tradition en Corse, quand on entend une certaine, la maladie, là.
Ah, la pauvre.
Qu'on entend la nuit, c'était mauvais présage.
C'est une sorcière.
Sorcière, ouais, ouais, tout voilà. À fait.
Vous savez, c'est la famille, c'est chouette et hibou, qui sont à peu près les mêmes bestioles. Ouais, ce sont la famille des strigidés.
Ouh, c'est joli.
Astrega, c'est le.
Astrega, c'est la sorcière.
Et c'était aussi, ça vient bien sûr des temps anciens, où les striges étaient des méchantes créatures qui allaient embêter les gens dans les cimetières.
Oui, hein, voilà.
Qui déterraient les morts et autres, enfin, pas très
sympa. C'est pas sympa.
Donc, ces pauvres chouettes, justement, hein, on va en parler. C'est assez d'ailleurs paradoxal, parce que chouette, ça vient d'un vieux mot, c'est le même mot que coquet. Et c'est pour ça qu'on dit c'est chouette.
Ah bon,
on dirait, c'est coquet, mais ça ferait un peu bizarre, c'est coquette.
Ça
ferait un petit peu déjà encore plus genré, si j'ose dire.
Oui.
Donc, alors, le rapace, ça vient de raptor, on retrouve ça. Hein. Donc, ça veut dire emporter précipitamment.
D'accord.
Alors, maintenant, on ne fait plus trop de différence entre les rapaces et les charognards, qui sont des rapaces.
Et pour quelle raison, alors, on ne fait pas de différence?
Eh bien, parce que ils sont à peu près équipés de la même façon, si j'ose dire.
D'accord.
Quand même aussi beaucoup de, enfin, si on regarde effectivement l'allure générale d'un gypaète, par exemple, qui était l'altor, qui pourrait être sur le drapeau corse, ben, c'est un charognard. C'est pas un animal qui tue. On l'a déjà dit, la définition prédateur, proie prédateur. La proie est un animal vivant qui va devenir un corps mort, un cadavre qui va être mangé par le prédateur, là, c'est directement lui est prédateur. S'il y a un autre animal qui va le manger, c'est un charognard.
D'accord. Alors, j'ai vu aussi une chose, Jean-Pierre, c'est que moi, dans mon esprit, j'ai tout entendu parler des rapaces, mais on parlait aussi des oiseaux de proie. C'est la même chose.
C'est la même chose. Alors là, ce serait encore plus facilement synonyme, puisque le rapace, raptor, qui attrape la proie, oiseau de proie. Alors on va parler, si vous voulez, ici, on va parler des chouettes, on a commencé à en parler, on va parler des hiboux. Hein. J'aime bien les hiboux.
J'aime bien les hiboux.
Les hiboux qui sont d'ailleurs des chouettes qui ont des oreilles qui n'en sont pas. Hein. Donc on va parler pourquoi pas des faucons, des milans, des aigles, et puis on parlera quand même du gypaète, malgré que ce soit un charognard, il est pour rien, il est quand même...
Et d'ailleurs, on avait fait une promenade ensemble, Jean-Pierre, il n'y a pas très longtemps, en Balagne, où vous m'aviez dit qu'il y avait énormément de faucons.
On était au cœur de la migration d'automne, c'était il y a environ un mois.
C'est ça, ouais.
Et là, on peut faire une nomenclature de tout ce qu'on peut voir à ce moment-là, qu'il soit sédentaire ou qu'il soit de passage. Bon, les aigles royaux sont bien sûr sédentaires, le gypaète barbu aussi, le milan royal et milan noir qui sont soit sédentaires, soit qui sont rejoints, ceux-là sont rejoints par des troupes qui viennent d'un petit peu partout de l'Europe. Il y a le faucon émérillon, le faucon pèlerin, le faucon cobèze, le faucon cresserelle, le faucon cresserellette, les éperviers d'Europe, le faucon obro. Enfin, il y en a autant que vous pouvez ne pas en reconnaître. Le tour des palombes, on en parlera.
Mais sur les faucons, Jean-Pierre, on les différencie vraiment, les faucons noirs, par exemple, des autres?
Bah, le faucon noir, c'est surtout au cinéma.
Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'il y avait un vrai.
Oui, d'accord. On va se débarrasser justement de l'étymologie du mot faucon, hein, qu'il soit faux, ils sont toujours faux, puisque là, ce sont des falconidés, c'est la forme des ailes, la silhouette à la forme d'une faux, si vous voulez. Chaque aile, on dirait une faux.
D'accord, ça vient de là, quoi.
Oui, les pauvres, ils n'ont rien à voir avec une quelque turpitude. Rien à voir avec un lapin, puisque je rappelle que le mot con vient de l'ancien français. Conil. Conil, qui était l'ancien nom du lapin, qu'on retrouve dans toutes les langues
méditerranéennes. Ah oui, Conero, un con, c'est un lapin.
Un con, c'est un lapin, à cause de, la, de certaines similitudes dans des toisons, paraît-il.
Bon, d'accord.
Comme on dit. Alors, ces rapaces, ils sont chasseurs, ils sont pêcheurs.
Ah, les aigles,
ils mangent des oiseaux, des serpents, des mammifères, des poissons. Mmh. Et bien sûr, énormément d'insectes. J'ai oublié parce que le tout petit faucon au broc dont on va parler peut-être, il est grand, il fait de 12 cm de haut, quoi.
Ah oui, oui, d'accord.
Et on le voit le long des falaises, là, c'est superbe d'ailleurs. Et il perd pas son temps, ça y va aussi. Et là, d'ailleurs, il n'a pas l'air commode du tout. Mais bon, bah, il a des proies qui sont bien sûr proportionnées. Donc, très souvent, des très gros insectes, comme les sauterelles.
Sauterelles, les hannetons, des choses comme ça.
Voilà, c'est ça, des choses assez grosses.
Mais c'est la famille du faucon.
Oui, tout à fait. Le falconidé, bon, il y a bien sûr plusieurs familles parmi les rapaces. Disons qu'ils sont, on parle de cousins, si vous voulez. Hein, dans l'aigle et le faucon se ressemblent, mais ne sont pas forcément issus exactement de manière proche des mêmes ancêtres. Justement, on va parler des points communs de ces animaux de proie. Ils sont tous brun fauve, avec parfois un petit peu de blanc. Et un petit peu de noir, mais très peu de noir, justement. C'est pour ça qu'il y a très peu de y a pas le, par exemple, le faucon noir n'existe pas. Ça fait encore plus faucon, ça fait peur. Et noir,
oui, c'est encore.
C'est le titre, je crois, d'un film sur une intervention d'une compagnie américaine
en
Somalie où ça se passe très mal. Des rapaces diurnes et des rapaces nocturnes.
Oui.
Qui sont assez différents, puisque bon, l'adaptation a fait que, bien sûr, les yeux, par exemple, d'une chouette qui travaille la nuit ne sont pas les mêmes que ceux d'un aigle qui travaille le jour.
Évident. Hein.
Ils sont bien sûr recouverts de plumes, ça c'est une évidence, mais avec des plumes un peu différentes pour les rapaces de nuit, qui fait que, on verra ça aussi, c'est assez étonnant, et bien sûr, ils ne chassent pas, ils sont capables de chasser quand la lune est complètement noire, ils ne chassent pas forcément avec les yeux, ils chassent avec l'ouïe. C'est complètement étonnant. Les chouettes ont une ouïe, extrêmement développée.
Ah, j'étais persuadé que c'était aussi quand même la vue.
Alors, il y a aussi la vue, bien sûr, mais comme les proies ont aussi une ouïe très développée, les souris, elles ont des grands pavillons, par exemple, les souris et les mulots, il faut que lorsqu'elles volent, elles ne fassent aucun bruit. Autrement, elles sont repérées aussitôt. Un oiseau, ça fait énormément de bruit quand ça vole. Regardez, là, quand on est peinard dans le maquis, et que d'un seul coup, il y a cinq palombes qui passent, c'est un bruit métallique. Quand vous avez 250 étourneaux qui volent à toute vitesse, le bruit emporte tout.
Refaites le bruit des étourneaux. Le bruit des étourneaux, si vous voulez. Ah voilà,
fais bien. C'est un étourneau sans sonner.
Sans sonner.
On reconnaît très bien. Les plumes sont recouvertes d'une sorte de poudre. Et surtout, elles sont. C'est un aigle qui glatit ou c'est un faucon qui
huit ? C'est un aigle.
Qui glatit. Donc il glatit.
Il glatit.
Le faucon huit.
J'ai son droit. Ça, c'est l'aigle.
Le bout des ailes des chouettes, par exemple, sont découpés de manière à ce que l'air puisse circuler dedans sans faire de bruit. Il y a des petites échancrures. C'est étudié pour.
Ce qui fait qu'on ne les entend pas, du coup.
On ne les entend pas du tout.
Ça, c'est génial, ça.
Le bec, quand même, des rapaces, c'est un crochu. Bec qui est crochu et tranchant, ça, c'est certain. Chez les nocturnes, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est une différence aussi, il est recouvert de plumes.
De plumes.
Oui, l'aigle, donc, en gros, c'est deux mandibules. Donc, crochu, extrêmement puissant, avec, l'âge se marque. Il y a une sorte de caroncule qui se marque, c'est comme chez beaucoup d'oiseaux d'ailleurs. Et là, ça s'appelle des cires.
Au-dessus du bec.
Oui. Dans les anciens dictionnaires des noms de la nature, il y a environ un dixième des mots qu'on a oubliés qui viennent justement des oiseaux de proie et en particulier de la fauconnerie. Si vous permettez, on parlera de cette chose qui est extrêmement importante. Des mots comme esclame, par exemple. Esclame, c'était un oiseau qui était relativement fin. Il y en avait, ça pourrait décrire des gens qu'on connaît, il y avait le gousseau. Les gousseaux, c'était ceux qui étaient un petit peu plus trapus. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Hein, voilà. Donc infiniment sympathique, petit et trapu. Alors, ensuite, c'est un animal qui a des doigts. Hein. Mais des doigts, donc aux pattes postérieures. Il y en a trois vers l'avant et un vers l'arrière. Quand je fais ça, vous me voyez très bien, c'est vraiment fait, c'est une pince.
Ouais,
c'est une pince énorme. Oui. Ces doigts, il y a des griffes qui sont longues et acérées, ça s'appelle des serres.
Ouais.
S-E-2-R-E.
Tout à fait.
Moi j'ai filmé ça. J'ai essayé de filmer en Mongolie les gens qui chassent avec les aigles. Mmh. Qui est, normalement, les aigles attrapent des loups, mais ce n'est pas tous les jours. Mmh. Mais j'ai filmé en Alsace un aigle qui attaquait et qui attrapait et qui tuait directement propre net un renard.
C'est par les serres qui le tuent ou...
C'est par les serres qui le tuent. C'est-à-dire que les serres d'une patte, suivant qu'il soit droitier ou gaucher, je ne sais pas, il y en a une qui est dans la boîte crânienne à la hauteur du cou de la nuque. Là, ça.
Oui, ça sectionne la colonne
vertébrale. Et l'autre est à la hauteur des reins et ça le maintient. Bon, donc ça, et puis ensuite, l'oiseau fait ce qu'on appelle sa gorge, c'est-à-dire qu'il va se nourrir dessus. Hein,
il se nourrit dessus, donc il ne le laisse pas pourrir.
Ah non. Les prédateurs, ces prédateurs-là, c'est rarissime qu'ils reviennent sur leur proie. Même s'ils ont attaqué. Déjà, parce qu'il faudrait pouvoir la défendre.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Parce que s'il y a un renard qui est tué, les odeurs vont se répandre. Il y a les sangliers qui vont arriver. Il peut y avoir un lynx, il peut y avoir un tas de choses comme ça. Il y en a beaucoup qui. Et là, à ce moment-là, l'aigle ne fait pas le poids. Parce que l'aigle, il doit faire. Même quand il est mouillé, il fait 6 kilos. Hein, c'est rien du tout. Par contre, il en a une envergure énorme. Une des caractéristiques, des rapaces, mais il y a d'autres oiseaux qui font ça, c'est le fait de rejeter des pelotes de réjection. C'est une... Il y a aussi les mouettes qui le font.
Qui viennent d'où ces pelotes, Jean-Pierre ?
De l'estomac.
Ah, d'accord.
C'est les résidus, c'est trop difficile à digérer, ce qui prendrait trop de temps pour ces oiseaux-là, puisque par exemple le gypaète, il est capable, on va le voir, de digérer une pierre. Hein, pratiquement, mais là, à l'instar des mouettes, de certains corvidés, des martins pêcheurs et autres, au lieu que ça reste dans l'estomac,
il régurgite.
Et c'est extrêmement intéressant et c'est amusant d'ailleurs parce que c'est propre, hein, ça a pas d'odeur. Donc, par exemple, à l'endroit où il y a un nid de chouette, on les trouve au pied, un reposoir de chouette parce que les chouettes sont relativement casanières. Même quand il n'y a pas de nid, elles reviennent pratiquement toujours au même endroit pour passer non pas la nuit, le jour. On retrouve les pelotes.
Alors les pelotes, ça veut dire on sait ce qu'elle a mangé.
Oui, ça c'est fantastique. C'est-à-dire que vous démontez la pelote, bon, il y a des poils, c'est relativement difficile à identifier. On s'aperçoit par exemple que la nourriture principale, bien sûr, c'est tout ce qui est souris, mulots, campagnols et musaraignes. Donc on retrouve les minuscules mâchoires, par exemple, des souris, c'est tout petit,
ça,
on retrouve
rigolo,
ça dedans. Et c'est très amusant. Moi, je l'ai fait à démonter ça. Bon, déjà pour soi. Puis quand il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à la nature et qui ont encore envie d'être étonnés, les enfants, par exemple, ils se disent, vous prenez un petit Parisien, vous lui montrez ça, il a l'impression d'avoir été en Amazonie.
Hein. C'est clair. On va écouter une chanson qui est pour moi l'une des plus belles chansons qui ont été écrites sur les oiseaux. Enfin voilà, elle est interprétée par mon maître, qui est Georges Brassens, avec les oiseaux de passage. Vous agréez
Tout à fait, cher monsieur.
Allez, c'est parti.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant ô les gens bienheureux. Tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Et on est avec Jean-Pierre pour parler des rapaces, avec, ouais. Avec un son là, très particulier, c'est un hibou ça qu'on vient d'entendre je crois.
Alors le grand-duc Bubule. Oh, et quand le grand-duc Bubule... oui, voilà, c'était un grand-duc qui n'a pas tout à fait mué, ça.
Oui.
Le vieux grand-duc, il fait...
Ah oui, oui, oui.
On dirait un vieux qui ronchonne.
Qui ronchonne,
ça peut s'entendre, malgré qu'il n'y en ait pas encore.
Non.
Ça s'entend de temps en temps.
Il n'y en a pas ici, des grands-ducs.
Il n'y a pas de grand-duc qui circulait.
Ah, il
peut y avoir des moyens-ducs, mais je pense simplement de passage.
Des petits-ducs.
Et il y a bien sûr le petit-duc.
Ah, il était beau, là.
Sans lui, la Corse est muette la nuit, si j'ose dire.
Oui, c'est celui qui fait coucou la nuit, là.
Ce petit cri, là, qui est, puis il est tout.
Voilà. C'est lui. Non, c'est pas
oui,
lui.
Ça peut être lui. Non. Ça, c'est la chouette Hulotte qui n'existe pas ici.
Ah, d'accord. Ah. Ok.
La chouette Hulotte, elle ulule. C'est la chouette des chouans. Hein, c'est les chouans se sont emparés de ça. Donc les contre-révolutionnaires de 1793 se reconnaissaient du côté du Maine-et-Loire
et de
la Bretagne pour lutter contre les armées de la République. Ils se réunissaient en imitant la chouette. Avec un petit problème quand même, c'est que ces chouettes-là ne sont audibles que certaines périodes de l'année. Donc c'était assez mauvais de l'entendre quand c'était pas la
J'ai
date.
Compris, oui. Dis-toi Jean-Pierre, on parlait de ces oiseaux-là qui sont certains sédentaires, d'autres qui ne le sont pas. Concernant le petit duc par exemple, lui
oui.
Il est sédentaire, il a trouvé son coin,
il est bien, il bouge bien. Pas. Il est bon, c'est un très gentil, enfin il est gentil. Sauf peut-être pour la maman sauterelle qui voit ses enfants disparaître ou des choses comme ça.
C'est
avant tout un mangeur de... Donc c'est un nocturne, on le sait.
Ouais.
C'est un mangeur de gros insectes, avant tout.
Il est tout petit quand même. Hein.
Ah oui, il est petit.
Il ne va pas s'attaquer à un mulot, quoi.
Un petit mulot.
Un petit mulot.
Bon. Une mulette. On va revenir sur les performances de ces oiseaux.
Ah oui,
ces oiseaux.
Impressionnant ça.
Bon, on va parler de l'audition, parce qu'il y a des choses surprenantes par rapport à l'audition. On va déjà dire que les hiboux, hein, ils ont ce qu'ils ont au-dessus de la tête, ce ne sont pas des oreilles, hein, mais des aigrettes, c'est des plumes, il y a 7 ou 8 plumes qui sont rassemblées. Ça donne cette espèce d'avoir des pavillons auditifs
au-dessus
de la tête.
Ouais.
Hein. C'est donc là, d'ailleurs la grosse différence entre chouette et hibou. Je rappelle que les Anglais ne s'embêtent pas avec ça. Il y a un seul mot, c'est owls. Hein, parce que ils sont extrêmement cousins. Le hibou est plus près de la plupart des chouettes que la chouette effraie est proche de la plupart des chouettes. Enfin, on arrive dans des histoires de classement.
Compliqué.
Bon, oui, ça ressemble à des pavillons, mais c'en est pas. On sait toujours pas à quoi ça sert. La chouette effraie, par exemple, elle a les yeux en plein milieu de la figure, mais elle a aussi des disques faciaux. Et certains auteurs prétendent que ces disques faciaux servent justement comme un pavillon auditif. C'est-à-dire que les sons arrivent dans ces disques faciaux et sont renvoyés vers les conduits auditifs.
Ok, d'accord. Ce qui fait qu'elle entend vachement bien, quoi.
Elle entend vachement bien. Et alors, chose qui est extrêmement étonnante, c'est qu'elle a deux oreilles qui sont différentes. Enfin, à l'intérieur, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de pavillon auditif. Celle de gauche, elle est plus haute et ouverte vers la hauteur.
Et l'autre est vers le bas.
Et l'autre, elle est ouverte vers le bas, elle est plus grande et plus performante. Pourquoi ? Parce que les proies sont en bas.
C'est sacrément organisé.
C'est pas si mal que ça. Hein.
Ah oui, oui.
Donc, elle est capable de chasser à l'oreille par les nuits noires, mais problème, par des nuits noires calmes. Parce que quand il y a du vent.
Ah bah oui, là, elle est perdue.
Et quand il pleut, elle entend trop fort.
Ah oui,
elle peut pas, il n'y a pas de potard. Enfin, elle a du mal à distinguer. La vue. Alors, la vue, c'est aussi quelque chose de fantastique. C'est un œil qui est très grand. Pour les rapaces nocturnes, c'est grâce au nombre de bâtonnets. Vous savez, il y a dans un œil, il y a des cônes et des bâtonnets, les cellules visuelles. Les cônes, ça permet en gros de voir les couleurs. C'est surtout la vision diurne, et la vision nocturne est assurée par les bâtonnets qu'on appelle bâtonnets à carotène, d'ailleurs, parce qu'il faut du carotène ou des substances qu'on trouve dans les végétaux, en particulier dans les myrtilles. Je rappelle, et le témoignage pour moi est direct, puisque mon père était à Londres en 40 et que les pilotes étaient gavés de confiture de myrtilles parce qu'ils devaient aller se battre la nuit. Ça tient à pas grand-chose. Je me souviens aussi que ces bâtonnets à carotène sont dans la périphérie de la vision.
Ouais.
Donc, le service militaire que j'ai fait, la seule chose dont je me souviens, entre 1 et 2, et puis après c'est fini, mais je me souviens qu'on nous faisait regarder de côté la nuit. Vrai que c'est complètement étonnant, vous regarderez la nuit, vous regardez les gens de travers et vous les voyez mieux.
C'est pas possible.
Ah si,
vous regardez,
vous savez, vous faites un peu comme
parce
vous faites.
Parce que là, je regarde de travers déjà. Hein.
Oui, mais même en plein jour, vous allez avoir une sacrée bonne vision. Mais c'est un petit peu, il faut mettre l'œil comme quand on met une goutte dans les yeux, vous savez, qu'on le tourne comme ça.
Oui, exact.
Hein, puis on regarde là, et regardez la vision que vous avez, vous attrapez le bord des lunettes que vous ne portez pas d'ailleurs.
Ah, c'est curieux. Hein.
Mais et donc cette vision-là, c'est fait pour la vision nocturne. Alors, on s'est amusé à faire des calculs. Ce que j'aime bien, c'est que on va prendre par exemple un aigle. L'œil de l'aigle, tous les yeux des rapaces sont très gros, parce qu'il faut mettre tout ça. Un aigle, c'est pas gros, hein, ça fait la femelle fait 6 kg, le mâle 4,5 kg. L'œil humain avait la taille proportionnelle de l'œil de l'aigle, on aura un œil gros comme un pamplemousse.
Mais oui, logique.
Donc, gros yeux en permanence.
Alors l'aigle, il est petit, vous dites, vous avez raison.
Non,
c'est l'envergure définitive qui est grande, c'est l'envergure.
Oui, ce sont des oiseaux qui sont extrêmement légers. C'est-à-dire qu'ils sont surtoilés, si j'ose dire. Puisque l'aigle, il va faire 2 mètres 50 minimum d'envergure. Hein, pour un poids qui est relativement faible, c'est pas grand-chose. Ouais. Cette fameuse acuité des aigles, par exemple... On dit alors qu'il peut. Bon, il a un champ de vision à 240 degrés, il a quand même le bec au milieu de la figure. Ces animaux, les yeux ne bougent pas d'ailleurs pour la plupart des
rapaces. C'est la tête qui bouge. Hein.
C'est la tête qu'il y en a certains. Moi, j'ai vu des petites chouettes, on a l'impression que ça se dévisse.
Mais j'ai vu le grand-duc. Le grand-duc, on a l'impression qu'il fait le tour complet, oui.
Oui, voilà, c'est complètement.
Alors, Jean-Pierre, on parle de l'œil de lynx pour les gens qui ont une vision très, très, très pointue, alors qu'en définitive, on aurait dû dire l'œil de l'aigle.
L'œil de l'aigle, mais ça se prononce peut-être moins facilement.
Ah ouais,
lynx, il avait la réputation de voir à travers les cailloux.
Ah, d'accord. Ouais,
ça
dépend ce qu'il fumait. Hein.
Peut-être que c'est pas vrai. Hein.
Oui.
Donc, les yeux des rapaces diurnes agissent un petit peu. Ils sont équipés de l'équivalent de loupes. Et c'est comme s'il y avait c'est exactement comme si on regarde dans une lunette d'ailleurs.
Oui, pareil.
Hein, donc il y a un grossissement et ça grossit jusqu'à 8 fois. Donc ça permet d'avoir une possibilité de discernement. C'est ça qui est important. À la limite, nous, quelque chose qui a 1 km, on voit ce qu'il y a 1 km. Mais on n'en voit pas le détail.
Alors que lui,
c'est ça la vue. Alors qu'eux, ils sont capables. Ça a été fait par exemple par rapport à la hauteur. Un objet qui fait 16 cm, ils peuvent le voir s'ils sont à 1500 mètres d'altitude.
Waouh!
C'est un peu trop précis pour.
C'est pour ça qu'ils fondent comme un poids mort, quoi, lorsqu'ils plongent sur leur proie.
Ah oui, oui, tout à fait.
Ils le voient très haut, quoi.
On va venir sur les techniques de chasse quand on va parler de la fauconnerie, parce que chacun de ces animaux avait un rôle et avait une spécificité. Le faucon, lui, il est capable de détecter un objet qui fait 2 mm, c'est-à-dire que c'est même pas un objet, c'est rien du tout, à 20 mètres de hauteur.
Waouh!
Il y a intérêt à bien se cacher, là, si j'ose dire.
Ouais, ouais.
Alors, en plus, ce qui se produit, c'est qu'ils ont, j'allais dire, un Photoshop intégré, tous ces rapaces.
Ah bon?
C'est-à-dire que non seulement il y a l'arrivée d'observations grâce aux organes de vision qui sont extraordinaires, qui sont des jumelles des ice de première qualité, si j'ose dire, ils ont dans le cerveau un Photoshop qui est capable, si ce n'est pas suffisant, d'amplifier la lumière, d'accentuer les contrastes. Hein, alors, ils ont aussi, la plupart des oiseaux, les primates que nous sommes, certains plus que d'autres, ont une vision trichromique. Hein, c'est-à-dire qu'on voit trois sortes, on a trois sortes de cônes, un pour les bleus, un pour les verts, un pour les rouges. Les rapaces, ils sont en quadrichromie, pardon. Hein, c'est-à-dire qu'ils voient les ultraviolets en plus. Et donc, ça, c'est le gros malin qui est là-haut, qui est en bas, qui se dit, tiens, j'ai un plumage ou un pelage qui fait qu'on ne va pas me voir, on le voit. Quoi. C'est pas... Hein. Alors, on l'a dit aussi, il y a un rapport poids-envergure qui est largement en faveur de l'envergure, parce que c'est disproportionné. Là, on l'a dit, un aigle, le mâle, va faire 4,5 kg, il a une envergure de 2,50 m. Chez tous les rapaces, sauf exception bien sûr, mais en général, les femelles sont beaucoup plus lourdes que les mâles. Un tiers de plus. Si on va venir, beaucoup de mâles, on les appelle des tiercelets. J'ai vu un tiercelet, les gens disent ça même si c'est une femelle, mais parce qu'il a un tiers de taille en moins. Parmi ces rapaces dans le monde, il y en a des minuscules. On va prendre le plus petit qui serait la chevêchette naine. Nous avons ici une chevêchette.
Il y en a ici.
Chevêchette, mais là, il y en a une qui est naine. Alors, la chevêchette, elle est déjà toute petite. Celle-là, elle ne fait que 17 cm. Bon, c'est pas
mais celle-là, elle doit avoir des prédateurs de tous les côtés alors. Tout petite comme ça.
Ah oui, bien sûr. Mais moi, j'avais rencontré Mamadou, j'ai des amis qui étaient fauconniers en Sologne, qui le sont toujours, les cohus, s'ils m'entendent, des gens qui ont voué leur vie aux animaux de proie, aux oiseaux de proie.
Ah
c'est-à-dire
oui.
que leur vie, c'est 24 heures sur 24, c'est 12 mois sur 12. Alors, qu'est-ce qu'ils en font? De temps en temps, ils chassent. Ils sont surtout appelés vers les ports où il y a beaucoup de mouettes pour faire des effarouchements sur les aéroports.
Ah, sur les aéroports, oui, j'ai vu
et
ça.
Et ce qui leur permet de survivre dans certains spectacles, parce que c'est très... Maintenant, on en revient peut-être
au faste
de la royauté.
Ça, ouais.
Quand il y a, par exemple, des défilés de mode, c'est bien d'avoir un aigle ou autre. Donc, ils vont là-bas et ça remplit la bourse. Et là, alors, elle en a un petit duc venant d'Afrique, qui gentiment on avait appelé Mamadou, qui était une petite bestiole adorable, qui, alors, à mon avis, elle faisait 8 ou 9 cm de haut.
Oui, tout petit, quoi.
Adulte. Hein. Et on a, à côté, on peut mettre le grand condor des Andes, qui fait 3,50 m.
C'est le plus grand, lui. C'est le plus grand des rapaces,
c'est
le condor. Hein.
Oui, on n'a pas, oui. Le plus grand des rapaces d'Europe, il est présent. Ils sont présents, d'ailleurs, parce que c'est d'abord le gypaète, qui fait, je crois, 2,80 m. Mmh. Ensuite, il y a les autres vautours qui font 2,70 m, et il y a l'aigle qui doit faire 2,40 m.
Jean-Pierre, j'ai vu dernièrement un reportage sur le condor, où ils réintroduisaient en définitive le condor dans les Andes.
Ouais.
Et c'est pas très beau en définitive, au niveau de la tête, et du cou, ça ressemble plus à un vautour qu'à un aigle.
Ah oui, oui,
le
non.
Condor, c'est fait, c'est magnifique quand,
non,
c'est,
oui,
quand les ailes
alors,
sont
justement,
déployées,
parce
quoi.
Que les seuls, il y a des rapaces. On voit ce qu'ils vont manger, ces charognards. Si c'est le charognard pur, le vautour tel qu'on voit
en Afrique, tout ça,
en Afrique ou dans les gorges du Tarn,
hein,
ou maintenant il y en a un au moins qui se balade et j'ai eu des nouvelles qui est arrivé venant d'Italie, je crois, relativement
ici.
Juvénile, qui est un vautour fauve. On l'a vu d'abord du côté de la Balagne, je crois que c'est le même. Après, on l'a soigné parce qu'il était plus capable de voler, parce qu'il avait ingéré du plomb.
Ah oui, d'accord.
Alors, du petit plomb de manière cutanée, si vous voyez ce que je veux dire. et du gros plomb de chevrotine qu'il avait avalé en même temps que les charognes qu'il avait mangées.
Ben, cela
donc
dit,
apparemment, il est tiré d'affaires.
Mais ben, cela dit, il va pas survivre, parce que bon, s'il est seul...
Si, si, apparemment, les gardes du parc s'en sont occupés, ils ont réussi à la...
Ah, mais il n'a pas de femelle. Il
ah non, voilà. Bien sûr, oui, tout à fait, ça, il est condamné à une grande solitude, d'autant plus que ça vit assez longtemps, ces oiseaux. Et j'ai lu, là, le 19 octobre, on annonçait qu'il serait bientôt libéré, donc espérons pour lui qu'il le soit.
En conditionnel, donc.
Alors, la tête de ces vautours, elle est faite, c'est toujours l'adaptation, elle est complètement déplumée.
Oui, c'est vrai. Hein, oui.
Parce que, bon, c'est un peu scabreux, mais c'est simplement la vie.
Qu'ils puissent rentrer.
Les vautours, ils attaquent par les trous, un cadavre.
Et, ouais.
Et le trou le plus appétissant, c'est pas toujours le plus propre.
C'est vrai.
Donc, imaginez cet oiseau qui serait constamment couvert
d'excréments.
D'excréments. Donc, la nature a dit, ben non, tu n'auras pas de plume à cet endroit-là. Donc, tu mets ta tête où tu veux, voilà. Tu fous retourner où tu veux, mais tu auras le coup propre, si j'ose dire.
Ben oui. Non, mais c'est vrai que voilà. Quand on les voit dépecer une charogne, quoi, ils ont vraiment la tête dedans. Quoi.
Ah ben, complètement, ça c'est... Ah ouais. Voilà. Alors, bien sûr, des rapaces, il y en a en Corse. Il y en a beaucoup.
Il y en a surtout les. Jean-Pierre, excusez-moi de vous couper. Ces rapaces, des rapaces, il y en a sur tous les continents.
Oui.
Partout.
Oui.
Hein. Ils sont.
Il y en a partout. Il y en a dans les endroits. On a beaucoup évoqué la savane, toutes ces petites bestioles dont on parlait, là, qui sont pas très grosses comme les dic-dic ou même les suricates et autres. Ils passent leur temps à avoir peur des rapaces. Et avec, bon, il y a toutes sortes des aigles, il y en a partout. En Guyane, vous avez peut-être vu la harpie.
Oui, tout à fait. Hein,
c'est un peu comme l'effraie, d'ailleurs. Mmh. Hein, c'est des mots qui font peur. Et une harpie, on rappelle que c'est un des plus grands rapaces qu'il puisse y avoir. Qui est un rapace, et non pas un charognard, qui fait bien son mètre de haut, quoi. Hein. Et qui, effectivement, a un cri en plus et autres. Et une harpie, c'est également une femme qui est loin
d'être
commode. Quoi.
Ça, c'est clair.
On dit, c'est une véritable harpie, sans savoir ce que c'est réellement une harpie.
Oui, alors qu'on
dit... le rapport est évident.
Mais d'ailleurs, allez sur Internet et vous verrez, tapez harpie, H-A-R-P-I-E, et vous verrez la tête.
Mais pas maintenant.
Non, pas maintenant, non, surtout pas.
Naturellement vôtre. Quand vous voulez en podcast, sur bleu-rcfm.co.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Nous évoquons avec Jean-Pierre Fleury aujourd'hui les rapaces, on a passé en revue quelques rapaces. On reviendra bien sûr tout à l'heure sur ceux qui sont chez nous, notamment le gypaète, mais pas que. Mais j'aimerais bien, parce que je sais que Jean-Pierre a des amis qui font de la fauconnerie, qu'on parle de cette fauconnerie. Parce que bon, la capture, l'élevage, la garde et l'affêtage de ces oiseaux de proie par les humains, alors on dit que ça aurait été pratiqué il y a au moins 4000 ans.
Ah oui,
c'est probablement la plus vieille chasse, quoi.
Oui, ils ont toujours cherché à s'équiper. Avant que ce soit une technique, c'était, enfin technique, je veux dire, par des objets venant de l'industrie, on s'associait à des animaux. Donc on s'est associé aux chiens, bien sûr, certains endroits aux guépards. Certains endroits, on a chassé avec, bien sûr, des oiseaux. Hein, donc ça permettait d'accentuer ses performances. Les oiseaux de proie ont toujours été admirés, de toute façon. Hein.
Oui,
on voit, par exemple, ils ont été admirés parce que dans la nature, ils ne sont pas discrets, d'ailleurs. Quand ils prennent quelque chose, ils ont décidé, ils sont capables, moi je l'ai vu, même sur des aires d'autoroute, d'aller attraper des moineaux. Un épervier va attraper un moineau, vous êtes en train de faire le plein, le moineau est dans la haie juste à côté, l'oiseau de proie, il n'en a rien à faire, il ne va pas rester. C'est fulgurant, il arrive, c'est pris, c'est fait. Donc, ils ont toujours été admirés. D'ailleurs, on sait bien sûr que à la fois la numismatique, dans la science des blasons et autres, on retrouve même des aigles à deux têtes. De l'Albanie, je crois, celui des Habsbourg, etc. Donc, ils sont très souvent là-dessus. Et puis aussi, c'est une histoire qui date de l'Antiquité, puisque le fameux Achille, il s'appelle Achille, ça veut dire aigle, quand même, il faut pas oublier. Hein, c'est une les Romains, tiens, avaient aussi, alors dans leurs armoiries, ils peuvent transporter des aigles qui étaient des grandes aigles. Hein, on a déjà évoqué ça. Il y avait à croire qu'il y avait que des femelles, puisque en termes d'armoiries et autres, on ne peut parler que d'aigles au féminin.
Ah bon ?
Donc les aigles de Napoléon étaient des aigles féminines.
Féminines.
Attendez, il y a même une ville
Des aigles femelles, vous dites Jean-Pierre ?
Parce que c'est plus gros, c'est plus forte.
D'accord, ok.
Athéna, la chouette qui avait mauvaise réputation, sauf celle de la sagesse, qui était la chouette chevêche. Qui était la chouette d'Athéna. Cléopâtre, elle était quand même tout le temps fourrée, si j'ose dire, avec deux rapaces, Horus et Ra, qui était Ra, le dieu du soleil. C'était une sorte de gros faucons, c'était des faucons. Et lui, il avait le globe du soleil sur la tête. C'est lui qui le portait. Le Cléopâtre, on l'a dit, et cette passion moyenne-orientale, elle a été ramenée en Europe par les croisés. Et puis ils ont fait du zèle après. Par exemple, Philippe Auguste, il arrête une bataille et propose 1000 pièces d'or pour récupérer un faucon qui lui avait échappé. On arrête de se battre, les gars, il y a plus important, j'ai perdu mon faucon. Frédéric Barberousse, il chasse au faucon et se bat en même temps. Il pouvait pas s'arrêter, quoi. Quand il est rentré, d'ailleurs, il a créé la charge de premier fauconnier. C'est du roi. C'est Saint-Louis. Saint-Louis qui paraît être quelqu'un de très paisible. C'était un fou de fauconnerie. Le premier fauconnier du roi, c'est une charge extrêmement honorifique, puisque celui qui était premier fauconnier, il pouvait rentrer dans une église avec son épée et son oiseau. Il fallait pas s'aviser de le faire autrement. Alors, Philippe le Bon, pourquoi pas, le 1450, le 50 ans plus tard, Léonard peignait la Joconde, condamne qui est reconnu avoir volé un oiseau de proie à se voir prélever une once de chair, alors j'ai regardé, ça fait environ 180 grammes, de la poitrine, et qu'on donne à l'oiseau, en lui disant t'as été volé dans le... Alors, François Ier, lui, il a 300 oiseaux de proie, il a 100 fauconniers. Et puis ça devient encore plus fort. Louis XIII, il donne la charge de Premier ministre. La politique, c'était quelque chose d'important à ce moment-là. Au duc de Luynes, parce qu'il était censé être le seul à pouvoir lui amener de ses provinces natales des pigrièches pour que le roi donc puisse chasser les moineaux dans le jardin des Tuileries. Et puis, chose quand même très importante, ce même Louis XIII, qui était quand même un fada de chasse au vol. Il chassait le héron avec, en général, des faucons, des gerfaux, justement. Parce que c'était un cadeau diplomatique. On s'offrait les plus beaux oiseaux d'un roi à l'autre, d'un sultan à l'autre, etc. Et donc, il chassait des hérons dans la région de Versailles. Parce qu'il y avait des marécages. Et il a fait construire, ce Louis XIII, un rendez-vous de chasse qui a bien plu à son... petit neveu, je crois, donc Louis XIV, et qui a fait, lui, a dit, tiens, Versailles, ce sera là, Versailles.
Mais Jean-Pierre, quand vous parlez, on parle de fauconnerie, là, en ce moment, avec vous, j'ai vu des images, là, d'époque, où on voit un fauconnier, qui en a 4 ou 5 autour de lui.
J'en ai filmé souvent,
Mais la chasse participait à quoi, de quoi on allait, qu'est-ce qu'ils allaient chasser, ces faucons? Des gros gibiers.
Chacun avait son oiseau, il y a un très vieux proverbe qui est assez long, mais je vais le lire, parce qu'on passe en revue la plupart des oiseaux qu'on pouvait affêter, donc oiseaux de proie.
Ouais.
On disait l'aigle est pour le roi ou pour l'empereur.
D'accord.
Non, pardon, l'aigle pour l'empereur. Mais c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on parle de l'aigle royal qui est pour l'empereur. Le gerfaut pour le roi. Gerfaut, c'est le plus grand des faucons, on l'a dit, qui vit en Islande, etc. Le faucon pèlerin, qui est le plus rapide, c'est celui qui est... qu'on a envie de, que les gens des déserts, les émirs ont envie de voir. Le pèlerin pour le duc. Bon, déjà, ouais, voilà. L'émerillon, c'est un petit épervier pour la dame. Le cresserelle pour la demoiselle.
Bah, l'émerillon. L'autour. Jean-Pierre l'émerillon. C'est pas le petit truc dont on se sert pour la pêche?
Si, bien sûr.
C'est la même chose.
Ah. Oui, c'est, oui. L'autour des palombes pour le bourgeois.
Ouais.
L'épervier pour le prêtre.
Ah, d'accord. Une classification.
Voilà. Et d'accord. D'ailleurs, il y en a un qu'on appelle, qui était un bon à rien, et ça voulait dire que vraiment, il est même pas dans la liste, c'était le Milan.
Ah oui.
C'est un esclouf.
Oh, bon,
c'était le mot qui était. Il est esclouf parce qu'il est, il est, il est bon à rien, il est pas capable d'attraper le, il attraperait pas son ombre.
Quoi. Le Milan, tiens. J'étais persuadé que c'était le contraire, que le Milan était un grand chasseur.
C'est presque un charognard.
Il n'y avait pas de Milan, il n'y avait pas un qui s'appelle le Milan Royal, si je me trompe.
Si, si, mais bon, il est, oui.
Il est bon à rien.
Mais,
il sert à rien.
Oui, non, mais c'est une bonne remarque. Alors, comment ça se passe? On va aller rechercher les mots qui viennent du fond des dictionnaires et du fond des temps. Par exemple, on dit les gens qui ont c'était une chasse très souvent à cheval avec beaucoup de gens. Donc, par essence, ces animaux ont peur de tout. C'est pour ça qu'ils sont chaperonnés.
Et s'ils sont couverts.
On leur met cette espèce de casque qui sont des œillères totales. Vous savez, les chevaux, on leur met par exemple pour ne pas qu'ils aient peur.
Mais on leur met aussi
des œillères. Là, on leur met ce casque totalement. Et c'est simplement quand on va les lâcher, parce qu'ils sont tenus par des lacets sur un gant spécial. Quand on va les lâcher, et comme ils chassent à vue, on leur retire ce chaperon, et là, ils voient l'animal, et ils vont monter, ils le prennent d'une façon. Alors, avoir des pratiques de haut vol, c'est pour les oiseaux de haut vol, c'est-à-dire, ce sont des oiseaux comme les faucons, par exemple, qui chassent à partir du haut, hein. On les lâche, ils vont monter, ils font ce qu'on appelle des orbes, c'est-à-dire, ils montent en faisant des cercles, ça s'appelle des orbes, hein. D'abord, ils prennent leur essor, hein.
Ouais.
Donc ils s'envolent, ils prennent leur essor, ils font ces orbes, ensuite ils voient l'animal qu'ils doivent chasser et ils vont fondre dessus. Alors le faucon et l'animal en vitesse de pointe, je crois que c'est de l'ordre de 200 à l'heure. Il faut savoir freiner dans ces cas-là, parce que si vous touchez le sol à cette vitesse-là, alors en général ils chassent des oiseaux comme des faisans, comme des perdrix.
Ouais.
Ils chassent très rarement directement au sol. Et ils vont dire ce qu'on appelle buffeter. C'est-à-dire que c'est le choc qui va projeter l'animal qui va de chasse, la proie, qui va être aux trois quarts KO. C'est simplement au fond, au sol, que la mort va être donnée. Ça, c'est les pratiques de haut vol. Donc, c'est quelque chose de huppé, si j'ose dire. Pratique de bas vol, c'est l'autour des palombes, par exemple. L'autour des palombes, qui est un faucon, qui est spécialisé dans l'attaque des palombes, d'où son nom. C'est un oiseau qui va attaquer par le bas, qui est capable de voler d'ailleurs dans les...
À l'envers.
À l'envers, et de voler dans le bas vol. C'est lui qui peut attraper des lièvres, par exemple. Le lièvre qui va foncer dans le bois, l'autour, il va le poursuivre. Mais les gens qui chassent... Il y a encore des gens qui le font, j'ai des témoignages là-dessus. Quelque part dans l'école du Pays Basque, ils chassent à vue. C'est-à-dire qu'on voit les vols de palombes arriver, de très très loin. Il y a un type qu'on appelle un chatard, qui va donner dire que les oiseaux arrivent, et ils vont commencer à lancer les premières palettes, qui sont des palettes blanches. Ces palettes ressemblent à l'autour. La palombe, elle a dans son patrimoine génétique le fait qu'elle va attaquer par des palombes.
Donc elle s'en va, quoi.
Immédiatement, elle va au ras des arbres, hein, donc elle baisse, parce que comme ça, elle sait qu'elle ne peut pas être attaquée par
par-dessous.
Bon, après, il y a le basque, hein, qui, lui, est malin, hein, qui va mettre des filets à peu près à cette hauteur-là, et qui va les prendre, ce sont des filets verticaux.
J'ai jeté un coup d'œil, Jean-Pierre, sur un bouquin, là, je l'ai en face de moi, le lexique de la chasse au vol et de la fauconnerie.
Ah oui,
850 termes et expressions ont été recensés depuis le 16e. Je suis surpris, quoi, de voir c'est quelque chose de... Alors, il y a plein de trucs, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avoir de l'entre-gens, un mariage d'épervier, il y a plein de trucs, quoi.
Alors, il y a des mots qui sont complètement... Alors, on a parlé de avoir de l'entre-gens, pratique de haut vol, etc., prendre son essor, mais le mot nier, par exemple. Hein, nier, ça veut dire il est un peu couillon. Mais on trouve le mot nid dedans. C'est un animal de fauconnerie qui a été pris petit dans le nid.
Oh, c'est joli.
Par opposition à un animal qui est hagard.
Hagard, ouais.
Hein, donc c'est aussi un terme de fauconnerie au départ. C'est un faucon qui a été capturé adulte.
Ah ben, c'est
joli, donc il ne sait plus où se mettre. L'autre, il est niais, il est un peu couillon parce qu'il n'a pas d'expérience. L'autre, il est hagard, il a peur et ça le fige. Autrefois, les animaux étaient capturés, on l'a vu, soit au nid, soit par des procédés de filets.
Filet, ouais.
Et ça coûtait d'ailleurs. Normalement, c'est complètement interdit. Hélas, il y a une contrebande, puisque un faucon pèlerin, qui est un faucon qui peut être sauvage, qui va être pris dans les falaises. Mmh. Il y en a qui nichent ici, d'ailleurs.
Ils sont protégés, d'ailleurs, ici.
C'est protégé partout dans les pays dits civilisés, mais il y a bien sûr du braconnage, parce que ça vaut le coup. Si vous arrivez à vendre un de ces faucons, vous allez le vendre 20 000 euros.
Ah oui, quand même.
Ah oui, puisqu'il y a un achat de la part des Émirats.
Ah oui, c'est eux qui l'achètent beaucoup.
Hein. Oui, alors c'est bon, il y a le faucon lanier qui
et puis eux, chez eux, mais comme apparemment aussi au moment de la, au Moyen-Âge, plus le monsieur en avait, je parle des oiseaux, hein, oui. Plus il était considéré.
Oui, alors il y a des chiffres qui sont faramineux, je ne sais pas si je vais les retrouver dans les nombreuses notes que j'ai prises, mais il y avait par exemple un sultan de l'Empire ottoman, dénommé Ahmed, je crois, il avait 30 000 oiseaux à sa disposition.
Ah oui, d'accord. Donc c'est
et 60 femmes.
Ah, quand même.
Ouais, donc les choses qui étaient importantes, ils savaient s'en entourer.
Jean-Pierre, il y a le temps qui court. J'aimerais, parce qu'il nous reste à peu près 8 minutes d'émission, j'aimerais bien que l'on parle rapidement. Puis on reviendra, je pense, on pourra faire une émission sur les chasses et les animaux qui nous aident. Sur ceux qui sont en Corse. Alors, on a parlé du gypaète.
On a parlé du GPET, juste une
barbu.
Très vite, pour revenir sur la fauconnerie,
oui, bah.
Actuellement, il y a des fauconniers, c'est quelque chose d'assez actif, malgré que ce soit extrêmement prenant, c'est-à-dire vous êtes fauconnier, vous l'êtes 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, tous les oiseaux qui sont utilisés en fauconnerie sont des oiseaux qui sont nés de manière dans des volières.
Dans les volières,
d'accord. Rien n'est prélevé dans la nature. Alors, les oiseaux de Corse, on va parler. On a parlé de l'aigle, l'aigle qui est là. Au moment de Noël, vous connaissez peut-être par cœur, l'incanto d'Ilagula.
Oui, l'incanto d'Ilagula.
Oui. Oui.
Mais ça, c'est le chant de l'aigle, quoi. C'est l'incanto d'Ilagula, c'est.
L'aigle arrête de prendre mes moutons.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Hein, parce que là, un aigle, un mouton, ça avait une réelle valeur. Quand l'aigle venait le bouffer, il y avait de quoi se fâcher. C'est pour ça d'ailleurs aussi, je ne veux pas dire que ça s'est fait systématiquement, puisqu'il y a encore quelques aigles, mais c'était aussi très facile,
beaucoup,
quand on a commencé à inventer certains poisons, d'empoisonner la proie.
Ouais.
Ces aigles, on a dit, bon, c'était normalement tous des femelles. Les plus gros, en tout cas, sur les emblèmes de Napoléon,
oui.
Hein, c'est là. Ils sont effectivement. Le mode de reproduction, ça commence pratiquement au mois de novembre chez ces grands oiseaux, le gypaète et l'aigle, parce que ça dure très très longtemps. Naissance d'un aiglon ou de deux aiglons, survivance, si j'ose dire, d'un seul, puisque le plus gros, celui qui est le plus démerde, il va priver son frère de nourriture, qui va mourir.
Hein, donc, il va le manger ou pas ?
Il y en a deux qui crèvent à petit feu, il y en a un qui crève rapidement et l'autre qui normalement va survivre. Les nids sont faits au bord des vires. Donc, je crois qu'il y a le même processus, mais je suis pas sûr. J'en suis sûr pour les gypaètes, mais il y a plusieurs nids qui sont faits.
Oui. Hein.
Ils nichent jamais d'une année sur l'autre au même endroit, parce que il faut le temps de désinfecter. C'est-à-dire que le charnier natal, hein, c'est le commun vol de gerfaux,
oui,
de charnier natal.
Oui.
Que nenni, monsieur de Heredia, il n'y a jamais eu de gerfaux en Méditerranée, puisqu'il parle de gens qui partaient de Palos de Moguer,
oui.
Etc. Et puis, c'est pas si sale que ça. L'air, ça s'appelle l'air. Le nid d'un rapace. Mais bon, il y a quand même quelques bactéries. Exactement comme,
oui,
d'ailleurs,
bon.
Comme dans un nid de mésange ou autre. Hein. On dit, est-ce qu'il faut garder un nid d'une année sur l'autre? De toute façon, il ne faut pas se mêler de ça. Mm. Mais d'une année sur l'autre, on hérite aussi du ménage qui n'a pas été fait.
Oui. Et puis, l'air, c'est quoi? C'est écrit comment? A-I-R-E ou c'est
A-I-R-E.
A-I-R-E,
ouais.
D'accord. Ouais. Okay.
Le gypaète, on en parle un petit peu si vous voulez. C'est Altor.
Au fait, sachez qu'il y a le livre Les plus beaux oiseaux de Corse,
oui,
qui
oui.
Écrit Jean-Pierre Fleury, qui était édité aux éditions Alviennes et qui est disponible, et c'est une bonne idée.
Voilà. Bon cadeau de Noël.
Mmh,
bon, bref.
Le
gypaète barbu, il est cet
Altor. Ah, j'adore ça.
Alors, particularité de ce gypaète, bon, il a du mal à continuer à vivre ici
compliqué,
comme ailleurs.
Hein, ouais.
Parce que il est inféodé pour sa nourriture à la présence de cadavres dans la montagne.
Il y en a de moins en moins.
Alors, alors ces cadavres, ce n'est pas forcément ceux de gens qu'on a acquis. Non. C'est bien sûr les cadavres des animaux, des Steve ou autres, qui sont morts, et qui, en tout cas, qui sont jamais redescendus. Et le, alors, il y a toute une chaîne alimentaire qui se met dessus. En l'absence de vautours, les premiers attaqués, c'est les corneilles mantelées et les grands corbeaux. Hein. Après, il y a les geais. Après, pourquoi pas, il peut y avoir des renards. Il peut y avoir des sangliers. Après, il y a beaucoup plus petits, mais qui nettoient beaucoup mieux. Et ensuite, il n'y a plus que des os. Et c'est là où intervient le gypaète, qui est pourtant le plus grand qu'il y ait, hein, puisque c'est lui qui a la, il a 3,50 m d'envergure. C'est-à-dire qu'il n'est pas tellement loin du condor.
Oui, c'est vrai. Hein.
Et le, donc, sa spécialité, c'est les restes osseux, et les tendons et les os. Et ce que je disais, il est capable de digérer une pierre, puisqu'il va digérer tout ça. Les os, ils sont quand même un peu longs, hein, malgré qu'ils ont les becs, le bec, la partie inférieure du bec, puisse vaguement se démancher, etc. Un peu capable, comme une couleuvre, vous savez, d'engamer des choses très très grosses. Et rapidement, il va monter avec l'os qui doit casser, il va se mettre pile poil au-dessus de la pierre, des pierres les plus dures.
Ah, il va le lâcher dessus.
Hein.
Ah ouais,
il va les faire tomber dessus pour qu'elles se cassent. Une fois, deux fois, trois fois, ça finit par se casser.
Et là,
le gypaète a mangé tout ça.
On reviendra sur les rapaces de Corse, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que le temps court et qu'on a appris plein de choses aujourd'hui. Nous, Jean-Pierre, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Bah oui,
comme d'habitude, même endroit, même fréquence. Ne changez rien, pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.